L'esprit public, Philippe Meyer.
Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette ultime émission de l'Esprit public, en direct et en public, depuis le studio 105 de la Maison de la Radio, qui dit ultime émission, dit finale avec toute la troupe. C'est pourquoi, exceptionnellement, cette émission sera non pas divisée en deux parties, ça c'est l'usage, mais les orateurs ne seront pas les mêmes selon les parties. Nous commencerons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lionel Zinsou, économiste franco-béninois. Puis, dans une deuxième partie, nous recevrons Jean-Louis Bourlange, essayiste et député de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous allons commencer par nous intéresser aux résultats des élections législatives. La République En Marche et son allié le MoDem sont arrivés largement en tête des deux tours devant le rassemblement LR-UDI-DVD. DVD étant divers droite. Le Front National est troisième, suivi par le Parti Socialiste, le PRG et DVG, c'est-à-dire divers gauche, par la France Insoumise et le PCF. Les élections ont été marquées par une abstention exceptionnelle, 57,4%. Avec 308 députés, La République En Marche dispose de la majorité absolue et peut compter sur les 42 élus du MoDem, ce qui porte le total à 346, le total des députés Macron-patibles, si j'ose dire, chiffre en deçà des sondages qui, après le premier tour, anticipaient 400 à 440 députés favorables au président de la République. La nouvelle législature, plus paritaire et plus jeune, compte de nombreux élus issus de la société civile. Au total, 75% des sièges ont été renouvelés et seulement 148 mandats reconduits. Les élections législatives ont confirmé l'enlisement du Parti socialiste, dont les 295 sortants reviennent à 31. Plusieurs ministres du quinquennat Hollande et ténors du parti ont été écartés dès le premier tour, à l'image de Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, Juliette Méadel, Mathias Feckel ou Jean-Christophe Cambadélis, qui a annoncé sa démission du poste de premier secrétaire du parti. Olivier Faure a été réélu, président du groupe, officiellement enregistré dans l'opposition. Il s'est refusé à toute obstruction pavlovienne contre la majorité, comme à une robotisation de la pensée qui conduirait à l'intégrer. Le Conseil national a décidé à 85% de ne pas voter la confiance au gouvernement, ce qui laisse à ceux qu'il souhaite la possibilité de s'abstenir. La fracture entre une aile dure et une aile modérée au sein des Républicains a été ravivée par la nomination de plusieurs figures du parti au gouvernement et la question du vote de confiance. Mercredi, Thierry Soler a annoncé la création d'un groupe d'une trentaine de députés constructifs, LR et UDI, prêts à travailler avec la majorité présidentielle. Le MoDem pourrait donc devenir le troisième groupe le plus important de l'Assemblée sous la présidence de l'ancienne ministre des Affaires européennes, Marielle de Sarnez. Avec 8 députés, le Front National a échoué à former un groupe. Alors que les divisions au sein du parti, notamment sur la question de l'euro, ont fragilisé la campagne de nombreux candidats, Marine Le Pen a été élue députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 58,6% des voix. Enfin, la France Insoumise est entrée à l'Assemblée avec 16 députés, dont Jean-Luc Mélenchon élu à Marseille. Elle formera un groupe autonome, tandis que le Parti communiste constituera le 7e groupe de l'Assemblée, allié aux 4 députés ultramarins. Sur cette question, Lionel Zinsou.
Oui, alors ce sont des élections qui donnent un peu le vertige, qui a même une dimension romanesque. On fait souvent allusion à la chambre bleu horizon pour décrire un raz-de-marée électoral. C'est une allusion aux élections de 1919, après la Première Guerre mondiale, où le bloc national, un rassemblement de droite et de centre, gagne de façon impressionnante les élections. Mais ça veut dire que la SFIO perd le tiers de ses sièges, c'est-à-dire pas 90%, le tiers seulement, et les radicaux, la moitié. C'est-à-dire qu'en réalité, cette chambre bleu horizon est beaucoup moins homogène et puissamment majoritaire que notre chambre, je sais pas comment il faut l'appeler, bleu roi. Je crois que la couleur de la campagne du président était bleue, me semble-t-il. Bleu comme le drapeau européen, bleu Macron. Enfin, il va falloir trouver quelque chose qui remplace bleu horizon, parce que c'est beaucoup mieux en ampleur qu'une chambre bleu horizon. Alors c'est aussi émouvant, impressionnant, parce qu'il y a quelque chose des illusions perdues. Si vous vous rappelez cette campagne, il y a eu tout un thème, si Macron est élu, il n'aura pas de majorité. Ça, c'est un thème qui était très développé par François Fillon. Je suis le seul à pouvoir gouverner, parce que je suis le seul à pouvoir avoir une majorité. Ensuite, il y a eu des illusions de cohabitation, presque sur tous les bancs. Et les Républicains étaient prêts pour la cohabitation. Nous allons soustraire Emmanuel Macron aux socialistes et le rendre, dans une cohabitation agréable, le rendre à la droite. Vous vous rappelez sans doute que M. Mélenchon a promis une cohabitation à gauche, qui, avec le nombre de députés, là, devient difficile, franchement. Vous vous rappelez que... on a négocié très longuement, presque au point de perdre du temps, entre socialistes et écologistes, pour être sûr qu'il y aurait 72 circonscriptions gagnables par les écologistes au sein du groupe formé par les socialistes et les écologistes. Malheureusement, on n'a pas atteint tout à fait ces chiffres. Donc il y a eu énormément d'illusions qui ont tout d'un coup été dissipées, et puis ce raz-de-marée, ce renouvellement très important. Alors, le renouveau, l'homme nouveau, c'est pas forcément non plus un programme. Donc, ce qu'il y a d'un petit peu vertigineux, c'est qu'on va voir ce que va devenir cette majorité, quel programme elle va exécuter. Tout n'est pas complètement clair dans le programme qui a été annoncé dans la présidentielle. Et de temps en temps, il y a des assemblées qui sont élues en 1936 pour établir le Front populaire et se disperse après avoir voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc il se trouve qu'il peut y avoir des éléments d'énigmes et de circonstances. Donc nous sommes devant un phénomène vertigineux, mais un phénomène aujourd'hui, au fond, imprévisible.
Sylvie Goffman.
Alors il y a énormément de choses à dire sur ces élections et cette nouvelle Assemblée, mais je crois que mon temps est limité, vous me le confirmez.
Il est restreint, mais il n'est pas limité.
Il y a beaucoup de choses à dire et pas seulement sur ces résultats remarquables et pas seulement sur l'arrivée au Palais Bourbon de Jean-Louis Bourlange, ce qui fait que les orphelins de l'esprit public pourront toujours podcaster les questions d'actualité de l'Assemblée nationale. Mais je voudrais revenir, je vais juste faire trois petits points peut-être. La première chose, c'est l'abstention. Vous avez mentionné ce chiffre impressionnant de 53,4%. C'est un chiffre inhabituel en France. On l'a déjà oublié, je crois, parce qu'il s'est passé tellement de choses, il y a tellement d'éléments positifs à souligner, mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas sous-estimer la part d'abstentionnistes qui n'y sont pas allés simplement par paresse ou par considérant que de toute façon la vague Macron avait tout emporté et que les résultats étaient pliés. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer non plus l'élément de désaffection, l'insatisfaction face aux choix quelquefois qui étaient proposés. Et il ne faut jamais arrêter de se demander, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 8 députés du Front National à l'Assemblée, je crois qu'il ne faudra jamais cesser de se demander où sont passés ces 10,6 millions de voix qui sont allées à Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon sera là de temps en temps pour nous le rappeler, mais voilà, c'est quand même, je crois, un des résultats de l'élection qu'il ne faut pas oublier. L'autre chose qui me... Deuxième remarque, ce qui est très frappant dans cette nouvelle Assemblée, c'est la fragmentation, la dispersion de l'opposition. Alors on a, Lionel l'a très bien souligné, cette masse de la majorité. Une autre chose, c'est les femmes, l'arrivée en force des femmes, 223 députés, c'est vraiment, on n'en est pas encore tout à fait à la moitié, mais c'est vraiment un progrès, je trouve, remarquable, et qui est un mouvement européen, et c'est ça qui est intéressant aussi. En même temps, on a eu des élections très récemment aussi au Royaume-Uni, où la Chambre des communes enregistre l'entrée d'un nombre record de femmes. On n'en est pas encore aux 40%. 4%, je crois, de l'Assemblée suédoise. Mais enfin, on voit que là, l'Europe a une identité qui s'affirme et la France fait partie de ce mouvement. Je trouve que c'est très bien et je pense que ça va changer des choses, cette représentation massive des femmes. Opposition très fragmentée. Et dernière chose, puisque je dois m'arrêter là, recomposition en marche, si j'ose dire. Ce séisme Macron continue dans ses répliques parlementaires. On a vraiment le Parti socialiste avec ses 31... Il n'a que 31 députés, mais ils sont déjà en train de se disputer sur l'avenir. Les sièges du parti qui sont mis en vente. Et puis à droite également, la droite quelque chose. Enfin, cette recomposition est en train de se faire et elle n'est pas du tout terminée. Elle va durer, à mon avis, assez longtemps et c'est passionnant à regarder.
François Bujon de l'État.
La France sort de ce cycle, de cette extraordinairement longue séquence électorale. C'est la plus longue dans l'histoire, je crois, de la France, puisqu'au fond, si on y inclut les primaires et la préparation des primaires, ça fait à peu près un an que la France est en campagne. Elle est allée voter 6 fois, 8 fois parfois, si elle a voté aux 2 primaires. Donc, voilà, elle sort fatiguée et contente de tourner la page. Je le dis parce que c'est peut-être une des raisons de l'abstention si importante aussi. Plusieurs choses à dire très vite. La première, c'est que c'est un succès éclatant pour Emmanuel Macron. Ça va de soi, mais il faut quand même le souligner. Qui aurait, il y a un an, imaginé cette conclusion ? Et qui aurait, même après son élection à la présidence de la République, imaginé qu'il aurait une majorité à l'Assemblée nationale aussi confortable que celle qu'il a un peu moins... grosse, un peu moins écrasante qu'on l'a imaginé après le premier tour, où on le voyait avec 400 à 450 sièges, mais le voici libre de ses mouvements, avec la majorité absolue, une très grande marge de manœuvre. Seconde chose à dire qui est évidente, je m'en excuse presque, mais c'est que c'est un changement politique complet. C'est un changement du paysage politique français qui est absolument complet. D'abord parce que nous assistons à un reclassement des forces politiques à l'Assemblée. Les deux anciens grands partis de gouvernement sortent l'un complètement laminé, l'autre affaibli et divisé. Et la France, pour la première fois, est gouvernée par une majorité qui est une majorité, je dirais, d'inspiration centriste ou en tout cas une coalition de réformistes qui finalement donne vie à ce qui a été le rêve de M. Giscard d'Estaing, à un moment, par exemple, gouverner la France au centre, ou celui de Raymond Barre, qui cherchait à gouverner en s'affranchissant de la tutelle des partis. Mais outre ce reclassement qui est à l'œuvre et qui est très important, il y a un renouvellement considérable de toute la classe politique. Il y a un rajeunissement énorme, il y a une disparition de tous les vieux classiques, un véritable jeu de massacre, ils ont tous disparu les uns après les autres. Il y a une grande abondance de nouveaux venus, 70% par exemple, de têtes nouvelles chez La République En Marche, la société civile et des élus locaux, et il y a les effets combinés du coup de balai électoral, de la lassitude de certains, de la relève générationnelle qui est quand même très 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 forte, de la loi sur le non-cumul qui a beaucoup joué et qui a dissuadé quelques maires de villes importantes de se présenter, et de la féminisation, puisque cette fois-ci, Sylvie, nous ne sommes pas en Suède, mais il y a quand même 223 Françaises à l'Assemblée nationale, alors qu'il n'y en avait que 157 dans l'Assemblée précédente. Troisième chose, le niveau très élevé de l'abstention met le doigt quand même sur un mal profond de notre système parlementaire et de notre système, je dirais, institutionnel. Bien sûr, il y a de multiples explications à l'abstention, vous les avez toutes lues et analysées. Il reste qu'il y a eu une courbe inexorable de la montée de l'abstention au cours des élections législatives depuis maintenant plus d'une décennie. 36 et 40% d'abstention en 2002, 40 et 40 en 2007, 43 et 45 en 2012, et maintenant des taux au-dessus de 50%. Cela montre bien que depuis la réforme constitutionnelle de 2000, qui a adopté le quinquennat et l'inversion du calendrier, les élections législatives venant après les présidentielles, il y a une espèce de démonétisation, je dirais de dévalorisation des élections législatives dans notre système, qui est quand même une des caractéristiques nouvelles d'un système politique dans lequel la présidentialisation ne cesse de s'accentuer.
Sur l'abstention, quand même, les sondeurs et les journalistes ont été d'une grande
réservent sur eux-mêmes, parce que on a tellement répété après le premier tour que le président de la République allait avoir une majorité gigantesque, même si gigantesque, on se demandait si ça n'est pas empêché la démocratie de respirer, que on peut s'interroger sur les conséquences que ces prédictions inexactes, que ces sondages faux et que ces grands discours considérablement alarmistes ont pu avoir sur l'électorat. Ça n'explique pas l'abstention du premier tour, mais ça explique l'abstention. Enfin, ça explique. Ça peut entrer dans l'explication du deuxième. Ça peut aussi pousser quand même à se demander s'il ne serait pas temps, puisqu'on a beaucoup parlé de la nécessité d'un examen de conscience de la classe politique, que l'ensemble de ceux qui concourent à l'information ne se livrent même à un examen de conscience. Et qu'au fond, beaucoup d'hommes politiques qui ont fait des erreurs les ont payés, ou sont en train de les payer. Et beaucoup de gens, je pense à le petit Michaud Arras en 89, on nous expliquait qu'il y avait eu 6000 morts, en réalité il y en avait eu 600, qu'ils ont montré le cadavre d'une dame avec son bébé sur le ventre, mais c'était pas son bébé, on s'est aperçu à l'autopsie, le bébé était mort non pas parce qu'il avait été assassiné, mais parce que c'était la mort subite du nouveau-né. Quant à la dame, qui n'était pas sa mère, elle était morte d'une cirrhose. Je passe sur le bagagiste de Roissy, qui était le maillon dur du terrorisme, mais on s'est aperçu que c'était sa belle-famille qui avait bidouillé une accusation bidon. Je passe sur la jeune fille du RERD qui avait été victime d'un attentat antisémite devant l'indifférence des passagers, mais l'attentat était entièrement imaginaire, sauf que ça a donné pendant des jours et des jours des pages et des litres d'encre et des quantités d'images. Et le dernier dont je me souviens, c'est le fameux Babu, l'Indien qui avait été soi-disant tué parce qu'il s'était interposé entre un voleur de portable et la dame à qui on voulait voler le portable. Mais après, les caméras ont montrer que tout le monde y était descendu. Je me souviens que Frédéric Mitterrand était venu faire des discours admirables sur les valeurs de l'Inde qui avaient été défendues par ce garçon, sauf que ce garçon était lui-même l'agresseur et qu'il n'y avait pas eu de vol de portable, ni de voleur, ni de volé. Tous les gens qui ont publié ça sont comme ceux qui ont annoncé l'arrivée de Nungesser et Colly. Ils se portent comme le Pont Neuf et leur carrière n'en a nullement souffert. Il y a peut-être des questions, moi je ne suis pas pour qu'on coupe les têtes, mais je suis pour que quand même on se serve des événements pour réfléchir et si on peut s'améliorer. Pardon, Marc-Olivier Panis.
Puisqu'on parle de l'abstention, trois mots rapides, c'est-à-dire qu'on sent effectivement la nécessité de commenter cette abstention. En même temps, par nature, l'abstention est dépourvue de porte-parole. Et par conséquent, je suis toujours surpris par, disons, la proportion de certains politiques, notamment, à s'instituer représentant des abstentionnistes. Ça, c'est logiquement impossible. Et donc, il y a au moins trois sortes d'abstention différentes. Il y a une sorte d'abstention civique, celle qui essaye de se traduire par l'idée du vote blanc, qui dit un message fort, c'est-à-dire nous croyons à la démocratie, mais nous ne sommes pas contents du système. Mais au-delà de ce message fort, il est difficile d'en tirer des conséquences politiques, pratiques et des mises en œuvre éventuelles. Et donc, c'est un discours à la fois fort, mais très court. Il y a un deuxième discours, Sylvie y a fait allusion, c'est celui du manque d'offres politiques, une insatisfaction face au choix. Encore que quand je me suis trouvé dans mon bureau de vote à prendre les 26 bulletins qui étaient posés devant moi sur la table, je me suis demandé où était le déficit de l'offre. J'avais même l'impression qu'il y avait légèrement un excès. Alors il y a aussi une distance à la politique, ça qui est certain. Et puis il y a ce dernier effet aussi auquel vous faisiez allusion, Philippe, qui est la mobilisation différentielle. C'est-à-dire effectivement les électeurs qui ont le sentiment que les jeux sont déjà joués, etc. Alors, cette mobilisation différentielle, elle s'appuie malgré tout sur une lecture assez juste de nos institutions. Et moi, c'est un peu le point qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que cette élection nous a appris sur notre système politique ? D'abord, elle nous a confirmé une chose, c'est que le mode de scrutin est conçu pour fabriquer des majorités. Et de ce point de vue-là, il marche parfaitement, il fabrique des majorités, et c'est ce qu'ont senti beaucoup d'électeurs, d'ailleurs ceux qui ont voulu confirmer le vote présidentiel, et ceux qui se sont abstenus en se disant « bon, bah, après tout, mon candidat a perdu, je n'ai plus de raison d'aller me déplacer ». Donc, on a bien une élection de confirmation. Et aujourd'hui, c'est étonnant d'entendre des députés républicains ou socialistes dire tout de même « cette majorité pour En Marche, c'est un peu excessif, il faudrait corriger les choses ». Alors qu'ils découvrent aujourd'hui que ce système est conçu pour fabriquer des majorités, et alors qu'ils en ont bénéficié pendant des années, c'est un peu fort. Deuxièmement, ce qu'on a appris, c'est que l'élection législative est une élection subordonnée, puisque c'est l'élection présidentielle qui domine. Mais alors on pourrait se dire, après tout ça, on pouvait le deviner, mais comme l'ont rappelé François et Lionel à juste titre, avant les élections, ce n'était pas évident. On entendait les leaders de la droite, et pas que, dire « on va vers une cohabitation, il n'y aura pas de majorité ». Or là, la démonstration est vraiment clairement faite. L'élection législative dans le cadre de l'inversion du calendrier est une élection de confirmation. Troisièmement, ce qui est plus une surprise pour moi, c'est l'équilibre dans une élection locale entre la notoriété locale du candidat, qui est censé être défendu par le scrutin d'arrondissement qui fait que le député a une implantation locale, il est connu par ses électeurs, et puis l'aspect national du vote. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait, disons, un partage, un équilibre subtil, difficile à déterminer entre ces deux éléments dans la pondération du choix. Or là, ce qui apparaît, c'est que l'implantation locale du député pèse quand même de peu de poids, ce qui est d'ailleurs particulièrement injuste. On pense à des députés qui connaissent parfaitement leur circonscription, qui ont résolu des problèmes parfois insolubles de leur mandat, etc., qui sont complètement balayés. Et donc on arrive à cette assemblée donc, que Sylvie a décrite, rajeunie, renouvelée, féminisée. Et dans le fond, ce changement de l'assemblée correspond à un bouleversement tel qu'on en connaît en général que lors des moments de bouleversement historique, quand il y a un choc externe qui arrive. Si on regarde la moyenne d'âge des députés, par exemple, c'est la première fois depuis 1958, cette moyenne d'âge n'a cessé d'augmenter. Et là, il y a une rupture de la courbe et on a enfin un rajeunissement qu'on attendait. Et ce qui est remarquable, dans le fond, de ce cycle électoral, c'est qu'on a connu cet énorme bouleversement à froid. Et qu'est-ce qu'il fallait pour changer notre système, c'était une nouvelle offre politique. Et dans le fond, c'est pas la victoire du dégagisme, comme on le dit, parce que nous ne sommes pas une gérontocratie autoritaire bloquée, c'est le succès d'une nouvelle offre politique qui vient troubler l'ancien jeu et qui, dans la forme de nos institutions, vient la renouveler de l'intérieur à froid.
Je vous remercie. Nous allons donc maintenant procéder, je le dis pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas l'image, c'est-à-dire qui ne sont pas ici, à une admirable chorégraphie. Et ceux de mes quatre camarades qui viennent de nous éclairer sur le résultat de l'élection législative vont céder la place aux quatre que j'ai annoncés précédemment et qui vont nous éclairer sur la suite de et les conséquences de ces élections, c'est-à-dire sur les chantiers du gouvernement Philippe II. À chaque fois que je dis le mot Philippe II, j'ai l'impression qu'on va chanter Don Carlos. Pardon. Donc le Premier ministre a remanié son équipe après les élections législatives. Les ministres modem concernés par l'enquête préliminaire sur d'éventuels emplois fictifs au Parlement européen ont quitté leurs fonctions. François Bayrou a choisi de les accompagner en réaffirmant son soutien à Emmanuel Macron. Il a présenté son retrait comme, je cite, une décision pour servir et permettre la bonne tenue des débats à venir sur la loi de moralisation de la vie publique. Si une dénonciation anonyme et non fondée, reprise dans cette cocotte minute que constituent réseaux sociaux, justice et médias, suffit à provoquer de telles vagues, comment se défend-on ? S'est interrogé le maire de Pau. Au ministère de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard succède à Richard Ferrand, visé par une enquête préliminaire pour des soupçons de favoritisme et de conflit d'intérêts, et élu depuis président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Le Conseil des ministres examinera mercredi prochain le projet de loi d'habilitation à recourir aux ordonnances pour réformer le Code du travail, réforme érigée en priorité par le chef de l'État. Le texte comporte 9 articles qui portent notamment sur l'instauration d'un barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, l'instauration du CDI de projet, la simplification du compte pénibilité, l'élargissement du champ des accords d'entreprise et la fusion des instances représentatives du personnel. Dans un entretien au Figaro, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a plaidé pour une convergence de la fiscalité avec l'Allemagne, notamment de l'impôt sur les sociétés, afin de renforcer la zone euro et sa protection face à la Chine et aux États-Unis. Il a annoncé des décisions difficiles à venir pour ramener le déficit public sous la barre des 3% et la sortie de l'État du capital d'entreprises non stratégiques qui mobilisent inutilement l'argent public. Emmanuel Macron a participé au Conseil européen des 22 et 23 juin. Il a plaidé pour la construction d'une Europe de la défense, pour la révision de la directive sur les travailleurs détachés et la construction d'une alliance de confiance entre Paris et Berlin, condition pour la mise en place d'un budget de la zone euro doté d'une gouvernance démocratique. Il a érigé la lutte contre le terrorisme en priorité absolue et revendiqué un aggiornamento sur le dossier syrien. Le départ de Bachar el-Assad n'est plus érigé en condition préalable aux négociations pour une transition politique en Syrie. Sur cette question, Nicole Nisotto.
Alors, trois remarques rapides. D'abord, ce gouvernement n'est pas tant le résultat d'une logique électorale que d'une logique médiatico-morale. Parce que si c'était le résultat des élections législatives, on n'aurait eu que quelques ajustements techniques, comme c'était d'ailleurs annoncé, l'entrée de quelques secrétaires d'État supplémentaires. Or, ça n'a pas été le cas. Il y a eu ce troisième tsunami, après l'abstention, après le vote majoritaire, du départ de trois poids lourds du gouvernement, donc M. Ferrand, M. Bayrou et Mme Goulard, et l'irruption du thème de la moralisation de la vie publique sur la composition du gouvernement. Alors, moi, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, je ne sais pas quel rôle a joué qui dans cette affaire, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce qui aurait pu être une crise gouvernementale, à peine les élections législatives passées, s'est transformé une fois de plus en succès, en maîtrise par le président de la République de l'événementiel déclenché par le départ de Sylvie Goulard. Et donc on a maintenant un gouvernement effectivement resserré, en ordre de marche, sans grand poids lourd à l'intérieur, donc qui sera un gouvernement relativement docile, ce qui a permis effectivement au président de la République de dire que ce gouvernement va durer. Deuxième point, une interrogation sur la méthode quand même annoncée du gouvernement. Le président de la République, dans sa campagne, avait annoncé qu'en particulier sur le sujet important de la réforme du Code du travail, il fonctionnerait par ordonnance pour aller vite et de façon à, d'ici la fin de l'été, c'est-à-dire le 21 septembre, avoir une réforme consommée du droit du travail. Et moi, je trouve que maintenant, on peut s'interroger sur cette méthode, parce que après tout, le gouvernement a les mains totalement libres au Parlement, il n'a pas d'opposition constituée, en tout 35 députés, si on ajoute la France Insoumise, le PC, le Front National, ça fait 35 députés véritablement hostile à la réforme du droit de travail. Il n'a pas besoin d'alliés, il n'a même pas besoin de la droite constructive de M. Soler. Et donc, la question des ordonnances qui a été annoncée dans une période où il pensait qu'il n'aurait peut-être pas cette majorité au Parlement, cette question des ordonnances, à mon avis, devrait être revue. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de véritable opposition démocratique au Parlement, faute d'opposants, puisque 304, 70% des sièges sont des députés d'En Marche, s'il n'y a pas de véritable débat d'opposition au Parlement, il risque d'y avoir un vrai débat d'opposition dans la rue. Et moi, je crois que peut-être qu'il faudrait revoir, il a le temps de faire par la voie parlementaire classique, parce que je crois que ce gouvernement a les mains libres, mais le risque, c'est qu'il ait les pieds plombés par une violence qui se manifestera dans la rue. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans la première session, 58% d'abstention, ça fait quand même une masse de gens dont on ne sait pas s'ils soutiendront ou s'ils s'abstiendront de descendre effectivement lors des manifestations de rentrée.
Michaela Wiegel.
Oui, permettez-moi tout d'abord de féliciter Emmanuel Macron du joli choix du nom de cette nouvelle équipe, Philippe II. Il fallait quand même le trouver. Ceci dit, c'est
vous
quand même...
Vous auriez préféré quoi, Michaela ?
Philippe II.
Ah, d'accord.
Je rêve de Philippe II. en fait, ceci dit,
je
c'est le premier...
C'est
le premier gouvernement qui porte, à mon avis, vraiment l'écriture complète d'Emmanuel Macron. On peut dire que dans un temps record, il s'est en quelque sorte débarrassé de ceux auxquels il devait quelque chose. C'est le cas François Bayrou. C'est plus encore d'une perspective allemande de Sylvie Goulard. qui était quand même à l'origine de... Il s'était pas gagné d'avance de ce début sans faute avec Angela Merkel. Elle était une passerelle vraiment d'une très très grande valeur et j'avoue que je trouve ça assez dommage qu'elle est la première qui expérimenta finalement le service militaire d'un mois que le président nous avait promis. Puisque Nicole vient de le dire, effectivement, cette approche est, comment dire, c'est vrai, c'est important, cette entreprise de moralisation, mais on se demande quand même si cette affaire, on n'aurait pas pu en savoir plus déjà avant. Et donc, je pense qu'il y a aussi un moment qui compte dans cette offensive de moralisation. Et là, j'ai quand même la forte impression que, en vérité, il s'agissait aussi de se donner un gouvernement des mains libres. Alors, moi, j'ai été frappée, je trouve, c'est pour... alors, un tout petit mot sur le gouvernement resserré. Ça, c'est un classique maintenant dans les relations franco-allemandes. Comme vous le savez, on fait maintenant toujours, c'est bientôt le cas, le 13 juillet, des grands conseils des ministres où il y a les ministres allemands, les ministres français. Les ministres français sont toujours plus nombreux, donc il y a toujours des ministres qui n'ont pas vraiment de partenaire avec qui parler. Et pour la première fois, dans son premier gouvernement, le président Macron avait réussi à créer le même nombre, donc on aurait eu vraiment des couples partout. Là, on est remonté à 30, donc resserré, c'est bien, mais je crois c'est probablement pour ça qu'il y a des secrétaires d'État sans compétences précises, c'est ceux-là qui ne vont pas avoir de partenaires à Berlin. Alors, un dernier mot sur ce gouvernement, l'inspiration de ce gouvernement qui me paraît très gaullien. Parce que finalement, c'est vraiment un gouvernement des experts. On a choisi les gens, non pas par rapport à leur poids politique, mais par rapport à leurs compétences. C'est d'ailleurs assez drôle, un médecin pour le ministère de la Santé, en amenant une juriste, une prof, une ancienne prof, membre du Conseil constitutionnel à la justice. Donc on voit bien cette écriture-là. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup au brillant élève Macron qui a toujours misé sur l'excellence et sur la méritocratie française. Et ce qui me frappe aussi, c'est le peu de personnes de ce qu'on a appelé la diversité. On a le secrétaire d'État à l'économie digitale, mais pour le reste, on n'a pas de personnalité qui soit émergée et qui peuvent avoir une réponse aussi à cette ascension sociale nécessaire pour les Français d'origine d'ailleurs.
Thierry Pêche.
Oui, c'est un gouvernement de soldats. Je ne suis pas sûr que ce soit le gouvernement des meilleurs experts ou le gouvernement des meilleurs ou je ne sais pas quoi, mais c'est un gouvernement de soldats parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire et les gens qui ont été recrutés n'ont pas été effectivement sur leur poids politique pour l'essentiel, mais sur d'autres considérations. Je voudrais m'arrêter sur l'affaire qui a marqué ces derniers jours, cette dernière semaine, qui était l'affaire Bayrou, le départ de François Bayrou. La vie politique est souvent tragique. Et elle a montré à quel point elle pouvait l'être, je crois, avec François Bayrou. Moi, j'ai jamais été proche de François Bayrou, et je dois dire que...
Non, d'ailleurs, si vous aviez été proche, vous diriez Bayrou.
Oui, voilà. C'est d'ailleurs, vous voyez, je le connais à peine.
Non, mais c'est comme Mitran, évidemment. Non, mais c'est un des critères.
Ça vous signe un homme.
Voilà, exactement. Donc, je vais continuer à le considérer presque comme un étranger. Je ne l'ai pas épargné.
Il n'est pas basque, quand même.
Oui, voilà. Bon,
il est berné.
Et je sais que vous savez beaucoup de choses sur Bayrou, Jean-Louis. C'est pour ça
c'est bien. Il sait tout sur moi, c'est terrible.
Bref, tout ça pour dire que c'était quand même l'homme par lequel la moralité était revenue dans le débat politique. Et il chute sur une question de déontologie, de possibles reproches. Quant à la probité du MoDem sur l'usage qu'il fait des fonds du Parlement européen. Bon, mais lorsque Bayrou donc a proposé une alliance avec Emmanuel Macron, il a mis comme condition, notamment cette affaire de moralisation de la vie publique, qui était une très bonne chose. Et je crois qu'il faut qu'il soit salué pour cette raison-là. Ensuite, évidemment, garde des Sceaux, ministre de la Justice, mêlé à une affaire sur laquelle une enquête préliminaire était ouverte, il était difficile qu'il restât dans cette situation. Mais je crois qu'il faut tout de même saluer le fait que cette question de la moralisation de la vie publique, en tout cas avec l'ampleur qu'il voulait lui donner, il n'y est pas pour rien, c'est une bonne chose. Un mot sur la méthode Macron, parce que les fleurs ont plu à l'instant dans les interventions de Nicole et Michaela, qui vont s'empresser de dire le contraire, mais elles ont tout à fait... Voilà, vous l'avez couvert de pétales de rose. Moi, il y a une question que je trouve intéressante, c'est que ce garçon dont on souligne le caractère jupitérien, vertical, assez... pas autoritaire, mais oui, vertical dans la gestion au moins des symboles. Olympien, voilà, très bien. À une pratique assez participative et négociée de la réforme. On l'avait vu sur la loi Macron, il était arrivé en maniant la foudre et l'éclair, en disant, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est la réforme, c'est la réforme. Et puis il avait passé des nuits à négocier au Parlement, avec beaucoup de talent d'ailleurs. Il y avait trouvé des amis imprévus, dont Stéphane Travert, qui était un frondeur avant et qui est devenu un ministre quelques mois plus tard.
Et Ferrand.
Et Richard Ferrand. Et ça, je crois que c'est une marque du personnage, et c'est un de ses paradoxes les plus intéressants. Regardez ce qui se passe sur les ordonnances. On a dit les ordonnances, c'est le synonyme dégradé du 49.3, ce qui n'est pas vrai sur le plan procédural. Mais en plus, ce qu'on observe, c'est que rarement une réforme aura donné lieu à autant de négociations avec les syndicats. Les syndicats eux-mêmes sont assez surpris. Regardez ce qui se passe sur la loi de moralisation de la vie publique. Bon, elle était beaucoup plus ambitieuse. Elle commence d'ailleurs à être reniée. Alors là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais dans la pratique des dossiers... Je trouve que le personnage et ses équipes sont beaucoup moins jupitériennes qu'on ne le dit.
Je voudrais juste défendre le 49-3 parce que je suis un peu fatigué de cette unanimité qui lui est hostile. Le 49-3, c'est une façon de dire au Parlement, à l'Assemblée, ce texte est pour nous essentiel, nous jouons notre existence là-dessus, si vous n'en voulez pas, fichez-nous dehors. Et il y a là quelque chose, et je me souviens comment Michel Rocard a pu gouverner grâce au 49-3, avant lui, mais avec un moindre niveau Raymond Barre, mais le nombre de choses qui n'auraient pas pu être faites et qui l'ont été grâce au 49-3 me paraît très important. Jean-Louis Bourlon.
Oui, de toute façon, on n'a pas besoin de 49-3 pour engager de facto la responsabilité du gouvernement. Il n'y avait pas de 49-3 sous la 4e et sous la 3e République, et malgré tout, les gouvernements déposaient la question de confiance. On se rappelle, les constitutionnalistes savent bien que cette mécanique compliquée n'a qu'un seul but, c'est de garantir l'identité de majorité entre la majorité de confiance et la majorité de défiance. Il ne fallait pas avoir besoin d'une majorité absolue pour être investi et puis une majorité relative pour être désinvesti. Donc on a fait ce système compliqué. Avec Édouard Balladur, j'avais proposé la commission Balladur, oui, quand on avait proposé les réformes qui ont abouti à la réforme de la Constitution de 2008, j'avais proposé un système qui avait séduit Balladur, puis je me suis fait opérer de je sais pas quoi, donc le truc a été oublié dans la commission, mais qui était de contraindre simplement l'Assemblée à voter, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de vote de défiance, il n'y aurait pas eu de dépôt de motion de censure, mais on aurait simplement, le gouvernement engageant sa confiance, le Parlement aurait voté simplement négativement, mais il aurait voté. Toutes les lois auraient fait l'objet d'un vote. Mais en tout cas, c'est pas un problème. Vous ne pouvez pas, effectivement, empêcher, même ça a abouti à des choses idiotes. Le brave Chéron, ministre des Finances sous Tardieu, a fait tomber Tardieu sans qu'il s'en aperçoive parce qu'il a déposé inopportunément la question de confiance et que le président du Conseil s'est retrouvé renversé. Bon. Sur le 49-3, je ne suis pas d'accord avec Nicole sur le 49-3 et les ordonnances. Je suis d'accord avec Thierry. Les ordonnances, c'est pas un problème de majorité, les ordonnances.
Je suis content que vous soyez revenu.
C'est un problème, oui, mais je suis toujours d'accord avec la moitié de ce que vous dites.
Et l'autre moitié, c'est moi.
Et là, c'était pas un problème. Le 49-3, c'est un problème de majorité. Les frondeurs avaient effectivement posé un problème à la majorité puisqu'ils vivaient sur un autre logiciel politique. Le problème de l'ordonnance, c'est un problème de rapidité. C'est comme un super vote bloqué, et c'est un problème qui n'escamote pas le Parlement, puisque le Parlement est amené à voter deux fois. D'abord sur une loi d'habilitation qui peut être aussi développée qu'on le veut et qui permet de définir clairement les principes politiques sur lesquels on s'engage. Puis ensuite, le vote de ratification. Et entre les deux, d'où la remarque de Thierry, entre les deux, les syndicats et le gouvernement peuvent se dire, comme dans tous les couples qui marchent, enfin seuls. Et négocier ensemble des accords, etc. Et c'est là où, quand même, on a affaire à un président de la République qui est assez subtil, parce qu'il manipule ces trois équilibres. Enfin, la rapidité, c'est essentiel, parce qu'on est en quinquennat, et parce qu'on a bien vu que toute réforme structurelle, le consensus se dégrade en avançant. Ça avait été très frappant sur la réforme des retraites de Sarkozy, qui était parti dans un consensus assez général et qui s'était effondré rapidement. Ça avait été le cas aussi de la réforme de la sécurité sociale de Juppé en 95. Là où je suis d'accord, c'est l'autre moitié, avec Nicole, c'est pour dire qu'effectivement, 49-3, ordonnance ou je ne sais quoi, nous avons un risque énorme de confrontation avec la France insoumise, avec certains syndicats. Et là, on voit bien à quel point tous ces syndicats gèrent de façon... D'abord, ils gèrent leur distance avec Mélenchon. Ça me paraît quelque chose de très notable. Ils gèrent en plus un type de compromis avec le pouvoir dont on ne sait pas encore la nature et qui pourrait être, on va céder un peu sur le droit du travail, mais vous touchez pas au système paritaire, au système bon, c'est possible. Il y a des tas de choses qui sont encore en pointillés, mais en tout cas, le risque est c'est le seul risque sérieux, et c'est pourquoi je comprends que le gouvernement d'Édouard Philippe, moi je suis d'accord avec Philippe II, le problème c'est que le problème du MoDem, c'est qu'on leur a réservé le sort des enfants d'Édouard, et c'est quand même pas drôle d'être les enfants d'Édouard. Bon, donc je pense que le gouvernement Philippe II est légèrement plus infléchi à gauche, et je comprends cette sensibilité. J'aurais même été peut-être plus loin si j'avais été en situation de former le gouvernement. Je pense qu'on aurait pu faire rentrer des personnalités comme Nicole Notta. J'envisage pour mon deuxième centenaire. Bon, et de faire rentrer des personnalités comme Nicole Notta qui auraient donné une visibilité assez grande dans cette direction. Enfin, peu importe. Ce que je voudrais dire, la seconde remarque que je voudrais faire, je suis alors là en désaccord avec Thierry sur son interprétation sur les affaires du MoDem. Moi, j'ai ressenti très douloureusement, et je ressens encore très douloureusement, cette affaire du MoDem. D'abord parce que l'histoire qui se passe n'a pas été l'histoire qu'on raconte. Ce n'est pas Madame Goulard qui, pour des raisons qui lui sont propres et que je ne connais pas, qui était très éloignée du MoDem depuis fort longtemps et qui a mis en avant un hypothétique et imaginaire, une imaginaire contestation sur ses assistants, que personne n'a sérieusement mis en cause à aucun moment dans cette affaire, pour expliquer son départ. Ce n'est pas le départ de Madame Goulard qui a été à l'origine de ça. Moi, je sais que toute la semaine dernière, Monsieur Bayrou, qui se trouve tout à fait innocent, mais était tout à fait conscient, comme le dit Thierry, de la difficulté d'être à la fois garde des Sceaux et mêlé à une affaire dont il aurait eu une connaissance privilégiée par le parquet, etc., et qui l'empêchait d'intervenir, parce que dès qu'il disait quelque chose, il disait « Ah, le garde des Sceaux se mêle des affaires », il était tout à fait décidé à partir. Je crois qu'Emmanuel Macron l'a retenu pendant un certain temps, sans doute pour que les élections électorales, les échéances électorales se terminent. Bon, mais ça, c'est pas l'important. L'important, c'est pourquoi, dans une affaire pareille, l'opinion publique fait une espèce d'antipolitisme systématique et ne hiérarchise en aucune façon les affaires. Ce n'est pas un problème judiciaire. Je crois que, par exemple, M. Fillon pourrait être en règle avec la justice, qui ne serait pas en règle avec la morale, et qu'on aurait assisté à un pillage des fonds publics, etc., dans certaines conditions. Je crois que pour M. Ferrand, il peut être en règle avec la justice, il reste qu'il y a une interrogation sur la légitimité, quand on dirige une entreprise, de monter une opération payée par cette entreprise, in fine, et qui rapporte 600 000 euros à sa famille. Je crois que là, on est en présence de problèmes moraux, alors donc de problèmes politiques. S'agissant du MoDem, pas du tout. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'analyser le contexte, d'analyser la nature, le périmètre exact de l'activité d'un assistant parlementaire. Un parlementaire, c'est trois choses. C'est quelqu'un qui travaille dans une institution, le Parlement européen ou l'Assemblée nationale, et qui peut avoir besoin de quelqu'un pour l'aider à faire son boulot dans cette institution. C'est quelqu'un qui est enraciné dans un électorat qu'il a élu et qui peut avoir besoin de quelqu'un pour l'aider à garder le contact dans sa circonscription avec les gens et avec tous les gens qui frappent à sa porte et les associations. Enfin, c'est quelqu'un qui porte les couleurs d'un parti politique et qui, à ce titre, participe d'une action collective avec d'autres parlementaires et d'autres militants et qui peut avoir besoin de quelqu'un pour l'aider. Voilà la chose. Alors, le deuxième problème que ça pose, je vais pas dire tout ce que je voulais dire, mais je termine là-dessus. Le deuxième problème que ça pose, c'est la mutualisation. Est-ce qu'un assistant parlementaire doit être singulièrement affecté à son parlementaire, ou est-ce que, sans évoquer Taylor et Ford, on peut imaginer une certaine forme de division du travail, de mutualisation des tâches et de répartition des fonctions? En réalité, moi, je vais vous dire, je vais finir par une anecdote précise. Je suis allé avant-hier voir à l'Assemblée nationale ce qu'on faisait avec les indemnités pour les assistants. L'administrateur extrêmement sympathique et compétent m'explique tout ça. Et je lui dis, mais si on ne dépense pas tout, que devient le reliquat? Est-ce qu'on le rend à l'institution? Il me dit, mais c'est très simple. Vous le remettez à votre groupe parlementaire. Donc, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit explicitement de faire ce qu'on reproche au MoDem d'avoir fait, c'est-à-dire une mutualisation des fonds destinés à recruter des assistants parlementaires, simplement parce qu'il est totalement idiot d'avoir une absence de division du travail. Vous avez un assistant qui est un spécialiste des travailleurs détachés, il va faire une note, il est évident que cette note doit profiter à tout le monde et que cette note doit profiter au parti. Alors tout ça se discute, mais en tout cas, ça ne pose pas de problème moral. Mais ce que ça veut dire, et c'est ça qui m'inquiète in fine, c'est que nous sommes dans un système qui est où l'activité, si on considère que les activités de M. Bayrou ont été immorales, c'est qu'on considère en réalité que l'activité politique en tant que telle est quasi délictuelle. Et ça, ça m'inquiète.
Mais non, j'avais oublié à quel point il est difficile de prévoir quand Jean-Luc Bourlange va finir. C'est si bon. Nicole Desoto.
J'avais 1000 choses à dire.
Oui, et je n'avais pas oublié à quel point Jean-Louis était absolument fondamental dans cette émission, parce que son retour est effectivement
Son retour marque la fin de cette émission. Oui.
Je suis l'ange exterminateur.
Ça lui a permis de revenir, en tout cas, au moins une fois. Non, j'avais juste une petite remarque sur le fait que ce serait une histoire de couple, le gouvernement et son opposition, ou la droite et la gauche. Malheureusement, je crois que ce n'est pas si simple. Il y a un trio, il y a un troisième acteur que tout le monde a l'air d'oublier, et qui sont les gens. Les 60% de gens qui ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement, qui ne se reconnaissent pas non plus peut-être dans les députés qui ont été élus, et qui, sur des réformes aussi importantes que la réforme de la loi du travail, peut-être pas la loi sur la moralisation, mais l'autre réforme, celle sur le terrorisme et donc la défense des libertés publiques, ces gens-là peuvent se manifester. Et moi, je trouve qu'il y a un élément sur lequel on n'insiste pas assez, c'est le risque de violence sociale dans ce pays. Il a absolument la tranquillité politique avec lui. Ce gouvernement est tranquille sur le plan politique, y compris avec les syndicats, y compris avec les partis de droite, de gauche, tout ce que vous voulez. Il est tranquille, mais la violence, elle est là, et je ne sais pas si elle va s'exprimer, mais il y a quand même des chances pour qu'elle le fasse.
Thierry Pêche.
Je ne voudrais pas qu'après 7 ans d'un long et amical compagnonnage avec Jean-Louis, on se quitte en étant d'accord. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Louis, sur l'indulgence que vous appelez sur les pratiques politiques que vous avez décrites et qui ne sont pas avérées concernant le MoDem. Ça, la justice aura peut-être à le dire dans les semaines futures. Mais si ces faits existent, ils posent une sérieuse question aux électeurs et à l'opinion publique, qui est l'allocation des fonds publics, en l'occurrence du Parlement européen, à une fonction particulière. Les électeurs veulent savoir ce que devient l'argent qui est censé servir au Parlement. Et ils n'apprécient pas que cet argent serve à d'autres fins. C'était la question qui était posée pour le Front National dans la campagne. C'était la même.
Oui, mais Le Front National, le Front National a tout à fait exagéré, parce que les assistants parlementaires n'avaient même pas le numéro de téléphone de leur député, ne connaissaient pas leur député. Et en fait, le Front National avait procédé de la façon suivante. Il y avait un organigramme de Mme Le Pen, établi par Mme Le Pen, et on avait pris les députés, et on avait pris les membres de l'organigramme, on avait dit ça, tu seras théoriquement l'assistant d'un tel, l'assistant d'un tel.
La question de principe est la même.
Mais non, la question de principe n'est pas la même, parce que entre-temps, il y avait une loi du Parlement européen qui interdisait cela, alors que ce n'était pas du tout le cas.
C'était pas le cas ou c'était le cas ?
Ce n'est pas le cas avant. C'est une loi qui est tout à fait récente. Et moi, j'ai toujours défendu, par exemple, l'idée que Mme Le Pen, utilise ses frais d'assistant pour avoir un chauffeur garde du corps. Avec le nombre de bêtises qu'elle profère chaque jour, elle a besoin d'un garde du corps. et un chauffeur, c'est très, très utile dans ce métier. Je dis simplement qu'un chirurgien, quand il a une assistante ou un assistant, cet assistant n'est pas là pour tenir le scalpel, elle est là aussi pour prendre les rendez-vous.
Michaela Figel.
Oui, juste très brièvement, je trouve d'ailleurs assez frappant dans la présentation de l'affaire des assistants parlementaires FN et MoDem qu'on ne pointe pas assez la différence, parce que les investigations émanées pour le Front National du Parlement européen, donc eux, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglementaire, et maintenant la mise en examen est prononcée, donc c'est totalement différent, je trouve, que de l'affaire du MoDem, où ça émane pas du Parlement européen, mais c'est des investigations préliminaires en France par la justice française. Alors je trouve on pointe pas assez cette différence de traitement dans ces deux affaires.
En tout cas, il n'y a ni emploi fictif ni enrichissement personnel. Alors ça constitue quand même quelque chose de très différent. Je comprends très bien qu'on s'interroge comme le fait Thierry. Moi, je crois que l'activité politique, c'est pas de la mortadelle, que ça se coupe pas en tranches, que quand vous êtes nous avons ici dans l'Assemblée Roselyne Bachelot qui sait ce que c'est que la politique. Quand on fait de la politique, je la salue, nous l'aimons tous. Quand on fait de la politique, on est constamment sur la brèche. On est à la fois dans le combat technique, législatif, dans le combat électoral, dans le combat de son parti.
La division des pouvoirs,
on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
La division des pouvoirs, c'est de la mortadelle.
La division du parlementaire en trois, c'est la mort du parlementaire.
Qu'on m'apporte une lance à incendie que je puisse. Alors, l'heure est venue maintenant, non pas des brèves, il n'y a pas de brèves, et l'heure est venue de vous dire au revoir, puisque c'est donc l'ultime émission. J'ai dit que je ne commenterai pas, m'appuyant d'ailleurs sur Chateaubriand, il faut se montrer économe de son mépris en raison du grand nombre de nécessiteux. par contre, il ne faut pas se montrer économe de ces remerciements d'abord envers celles et ceux qui sont et qui ont été autour de cette table avec moi, pas seulement à cause de ce qu'ils ont apporté au débat, mais aussi à cause de cette camaraderie qui s'est si vite et si bien et avec tous développée et que les auditeurs ont senti et dont ils nous ont su gré comme ils ont, puisque beaucoup d'entre eux vous nous ont écrit, comme vous avez su gré de ce que nous prenions le temps de nous écouter et de nous répondre, et qu'au fond, l'un des compliments les plus agréables que nous ayons entendu, c'est quand on vous écoutait, en sortant, on avait l'impression d'être plus intelligent. J'ai donc remercié aussi mes assistants, qui ont été nombreux depuis 20 ans. Aujourd'hui, Augustin Bernard Roudex, soutenu par Mathilde Cadreau. C'est un travail ingrat, d'abord parce qu'il faut me supporter, ensuite parce qu'il faut organiser beaucoup de choses et les préparer. Et donc, sans eux, il y en a un certain nombre qui sont venus nous dire au revoir. Sans eux, cette émission aurait été moins solide. Je remercie les réalisateurs, aujourd'hui Luc-Jean Reynaud, mais d'autres l'ont précédé. Les techniciens, qui sont toujours ceux, quand on enregistre une émission, qu'on regarde derrière la vitre pour voir leur réaction, qui sont notre premier public, et qui sont donc aujourd'hui autour de Luc-Jean Reynaud, Benjamin Vignal, Philippe Mercher et François Le Dreyf. Et je remercie bien sûr les auditeurs, pas seulement parce qu'ils nous ont audités, mais aussi parce qu'ils nous ont fait savoir que ils nous écoutaient
et qu'ils nous ont donné leurs sentiments et leurs appréciations, quelquefois leurs critiques, quelquefois vengeresse. Plusieurs auditeurs pensent que certains d'entre nous mangent tous les matins, boivent tous les matins un bol de sang des ouvriers. Ça n'est pas exact, il n'y a plus assez d'ouvriers. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une sortie un peu théâtrale, un peu solennelle. Alors, pour faire une sortie un peu théâtrale, il faut quand même du latin, il me semblait. Alors, j'avais d'abord pensé à la dernière phrase de Néron, vous savez, « Qualis artifex pereo », quel artiste le monde perd en moi. Et puis, je me suis dit que ça n'allait pas marcher aussi bien. J'avais pensé à quelque chose de plus poétique. C'est la traduction que j'avais eu à faire quand j'étais lycéen d'une phrase de Job, une phrase en latin de Job qui dit que nous passons quasi nubes. Non, sicut nubes quasi naves velutumbra, c'est-à-dire comme un nuage, tel un navire, ainsi qu'une ombre. Puis je me suis dit que c'était peut-être un peu triste. Alors j'ai cherché comment pouvoir prendre congé de vous, et puis un certain nombre de mes camarades qui connaissent mes manies et mes vices m'ont dit « mais chante-nous quelque chose ». Alors j'ai pensé, parce qu'il faut en trouver quelque chose de circonstance, on va pas chanter « ce n'est qu'un au revoir mes frères », même en écossais, puisque c'est une chanson écossaise. Et donc il faut trouver une chanson qui dise « au revoir », qui soit quand même un peu triste, mais pas seulement triste. Et j'ai pensé à cette chanson de Roland de Lassu qui fait « Mon cœur se recommande à vous, plein d'embarras et de mal dire, au moins en dépit des jaloux, qu'un grand merci vous puisse dire. »